Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au dernier podcast de la saison de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Ma voiture fonctionne bien.
Et de Dwayne.
Hello tout le monde.
Pas de Ben cette semaine, parce que comme l'a indiqué Pixel, lui sa voiture fonctionne bien, par contre celle de Ben, c'est pas trop ça. Donc Ben, si tu nous écoutes après coup, on espère que ça s'est bien passé. Voilà. Allez, au sommaire de l'actualité pour cette dernière semaine de podcast. Je rappelle donc que nous reprendrons dans la semaine qui suit la Gamescom. Je crois que la Gamescom démarre le 22, donc je vous laisse regarder votre calendrier, n'est-ce pas? Nous parlerons donc de Re:Legend. On évoquera ensuite Xseed qui a débauché Durante. Nous évoquerons également les youtubeurs streamers sur PUBG. On parlera de For Honor et de son mode en ligne. On enchaînera ensuite sur Take-Two et Red Dead Redemption 2. Et enfin, on parlera du mauvais goût dans le jeu vidéo, les jeux putaclic, tout ça. Est-ce qu'il faut les interdire? On verra ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va donc commencer avec le jeu de la vie pour Mordrain et Ben, n'est-ce pas? C'est Re:Legend. Alors, je vais être honnête avec vous, les gens, à la base, c'était la news spéciale Ben qui devait être là. Parce que bon, c'est un peu le jeu rêvé pour lui, c'est-à-dire que il y a un peu le côté Harvest Moon, avec la ferme, tout ça. Et de l'autre côté, la capture de monstres pour Mordrain. Et comme ça, tous les deux, ils auraient pu jouer en coop sur un jeu qui mêle ces deux aspects. Alors fondamentalement, rien de bien original, hein, on est d'accord. Mais c'est juste que c'est un jeu qui a l'air sympathique. Et connaissant les deux loustiques, je pense que il n'est pas exclu qu'à sa sortie, il jette un coup d'œil dessus. Surtout Ben, qui a acheté Yonder récemment. On connaît tous sa vocation fermière ici. Donc voilà, le jeu donc est sur Kickstarter, il a déjà été financé en moins de 18 heures je crois. Il demandait 78 000 dollars, en 18 heures il les a eus. Il est à 121 000, comme d'habitude pour les jeux qui sont déjà financés, je ne vous incite absolument pas à aller en rajouter une couche. Parce que vous savez ce que je pense des stretch goals, c'est toujours une mauvaise idée. Ça incite les développeurs à rajouter des features pour lesquelles ils n'ont pas de pognon. En tout cas, soit ils ont déjà le pognon pour financer ces features et c'est juste pour engranger encore plus de pognon, soit ils l'ont pas, donc dans tous les cas, ça ne sert à rien de se précipiter pour les financer. Je vous mettrai quand même le lien vers le Kickstarter pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Mais dans tous les cas, à titre personnel, c'est un petit jeu qui pourrait m'intéresser. Il y a tout cet aspect planification, tout ça, que je trouve toujours assez sympathique. On va maintenant parler, mon cher Pixel, de Xseed et Durante.
Durante. Alors, Durante, il faudrait ça, qu'on rappelle en fait qui c'est ce monsieur, ce programmeur PC de génie, qui a sauvé, on peut dire ça comme ça, le portage PC catastrophique de Dark Souls. Et il a continué à sauver quelques autres jeux japonais, on va dire, obscurs, qui sortaient sur Steam. Mmh. Et il s'est fait embaucher par une boîte qui s'appelle Xseed, dont la spécialité est la localisation de jeux japonais console de niche sur PC.
Qui ont localisé la quasi-totalité des IS, notamment.
Voilà. Il aide les programmeurs de Xseed à sortir le meilleur portage possible.
Et Dieu sait que des fois, ça peut être compliqué.
Et ouais, ça peut être très 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 compliqué. Et là, leur dernier jeu en date, il s'appelle Trails of Cold Steel. Et il va rajouter plein de choses, comme par exemple le mode 60 FPS, parce que d'origine, il est à 30 FPS. Il va augmenter le champ de vision, il va ajouter de...
Un vrai anti-aliasing.
Voilà, de l'anti-aliasing, du SSAO, du HBAO. Il va améliorer les ombres, il va améliorer les shaders, ce genre de choses, quoi.
Et surtout, il va virer l'absolument horrible popping qu'il y a dans le jeu, parce que, genre, oui. Dans ce jeu, tu vois pas 3 mètres, quoi. C'est-à-dire que les éléments... À 3 mètres, ils disparaissent, quoi. Alors, je sais qu'on a tous une sensibilité différente vis-à-vis de ce genre de choses, mais pour ma part, c'est le genre de choses qui me sortent totalement d'un jeu, quoi.
Ouais, parce qu'il y a une vidéo, de toute façon, les auditeurs verront dans les liens, quoi, de ce podcast, entre le jeu, en fait, avec les presets de la version PSP, et ensuite, dans la même vidéo, le jeu tel qu'il sera, Et on voit largement une différence de qualité et surtout de distance d'affichage entre la version d'origine qui était affreuse. C'est vrai, on voit pas à 3-4 mètres tous les personnages et les animaux, bah ils pop devant toi. Donc, c'est absolument horrible.
Hashtag immersion.
Voilà, hashtag immersion. Et sur PC, bon ben bah, tout est chargé d'un coup dans la mémoire. On va dire que c'est normal, la différence, elle est flagrante. Voilà.
Voilà. Une très bonne nouvelle, moi, enfin, ça fait longtemps que je dis que les boîtes qui font ce type de localisation devraient embaucher des gars comme Durante, dont on sait qu'ils font un super bon boulot. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut que ces gars soient payés, parce que c'est pas normal qu'ils bossent gratuitement pour sauver des portages de jeux comme ça. Et que, en plus, ces boîtes auraient gagné, parce que je veux dire, t'as plus la nouveauté d'être un japonais, si tu veux, parce qu'il y a plein de japonais qui sortent sur Steam, maintenant. D'ailleurs, il y a Falcom qui a fait récemment une déclaration comme quoi ils voulaient que tous leurs jeux sortent sur Steam, bon, ce qui est déjà quasiment le cas, hein, la quasi-totalité de leur catalogue est dispo sur Steam, notamment grâce à Exceed. Et ils auraient tout à gagner à faire des portages propres, qui font pas que quand ton jeu sort, t'as des reviews de merde parce que t'as fait un portage PC de merde, quoi. Donc c'est très bien qu'il y ait des gars comme Durante qui bossent de base sur les jeux pour sortir des portages propres. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les liens, notamment vers un billet de blog sur lequel il explique toute sa démarche. Il y aura aussi le lien vers la vidéo dont t'as parlé Pixel. En tout cas, ça a l'air d'être un portage très propre. Bon, après, comme d'habitude, il faut attendre que le jeu soit sorti pour se renseigner. Juste une précision, par contre, c'est vrai que le jeu va être un peu cher. Il sera vendu à 40€ sur Steam. Mais personnellement, je pense que je le prendrai quand même, parce que Trails of the Cold Steel, pour rappel, c'est un Legend of Heroes, en fait. Et vous savez toute l'affection que j'ai pour cette série, n'est-ce pas ? Ne serait-ce que pour encourager cette démarche-là, je pense que je le prendrai à titre personnel. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer à la suite, mon cher Dwayne. Et on va maintenant parler d'un petit jeu indépendant qui vient de percer, n'est-ce pas ?
Voilà, voilà. Ça s'appelle PUBG, donc Player Unknown Battleground, hein, dont on va parler encore une fois.
C'est la première fois que nous on en parle.
Ah oui, oui, non, je veux dire, en général, c'est qu'il y a beaucoup de polémiques autour du jeu, ce qui est un peu normal vu l'ampleur. Aujourd'hui, on est à 5 millions...
6 millions.
Ah, pardon, mince, j'ai regardé hier. On en est à 6. Ouais, donc du coup, on est à 6 millions, voilà, info à jour. Du coup, on a de nouvelles règles qui ont été mises en place il y a un moment, avec notamment la règle du stream sniping. Donc c'est le concept, enfin le principe, c'est que un streamer qui va être en train de jouer à PUBG va être tout simplement tué par une personne qui va le retrouver par rapport au stream et avoir de fait donc des infos en plus pour pouvoir le tuer. Donc c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises. On a eu en fait un nouveau cas avec un streamer du nom de Shroud qui est assez connu. Il y a dû avoir masse de reports par rapport à ce mec-là et du coup il a été viré. Donc juste après, il a dit que lui, ben, il regarde très rarement Twitch, il savait même pas. Enfin, je veux dire, le mec, il joue, il snipe un gars, surtout que le fameux Shroud, tu le vois, il est en train de tirer, il est à découvert en dehors d'une maison, il se fait sniper.
Il joue comme un mongol à PUBG, hein. Tu joues pas comme ça à PUBG, je suis désolé.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Il y a un moment donné, tu demandes à ce qu'on te tire dessus, les gens tirent dessus. Hein. C'est...
Non, mais clairement, je veux dire, PUBG, c'est justement le principe, c'est que tu fais hyper attention, le fait que quand t'es mort, bah, c'est justement le principe, que tu restes pas comme un mongol dehors et faire « Ah, je me suis fait stream sniper !»
Juste pour un rappel, pour les trois pèlerins qui ne sauraient pas ce qu'est PUBG, il doit y en avoir.
Ouais, possible.
C'est un Battle Royale, en fait. C'est-à-dire que... Non, je ne dirais pas Hunger Games, parce que ça m'énerve quand les gens disent ça. Voilà. c'est un Battle Royale, voilà, point. Et donc, le principe, c'est que vous avez un largage en début de game sur une map. Vous choisissez où vous allez atterrir, en fait. Vous vous procurez du loot. Et ensuite, un peu comme dans le film Battle Royale, vous avez une zone qui se réduit de plus en plus. Et donc, du coup, que vous jouiez tout seul ou en équipe, au fur et à mesure que la zone se réduit, vous allez rencontrer de plus en plus de joueurs, et le but, c'est de survivre jusqu'à la fin, quoi. Et généralement, à la fin, t'as une toute petite zone où t'as tout le monde qui est allongé, et le moindre faux pas, tu te fais buter, quoi. Donc c'est ça le principe de PUBG. Donc c'est un jeu, fondamentalement, où il faut observer ton environnement et être tout le temps sur tes gardes. Donc si tu fais le mongol comme ce streamer là, c'est normal que tu le fasses tuer à un moment donné.
Et ce qui est un peu la dérive, c'est le fait qu'on ait des mecs comme ça, juste parce qu'ils ont beaucoup de viewers, t'as plein de gens qui viennent pour faire un report sur un seul mec, donc ça fait du 100 contre 1.
Sans aucune preuve, c'est ça le truc.
Voilà, c'est ça. Il y a aucune preuve que le mec savait que ce fameux Shroud était en train de streamer. En gros, parce que t'es un youtubeur connu, t'as pas le droit de te faire sniper sur PUBG, ça devient assez ridicule.
Oui, en fait,
quoi.
Il suffit que tes fans reportent en masse un mec. Ah, il m'a tué, non, c'est forcément, il m'a stream snipé, tu vois. Enfin, je suis désolé. À un moment donné, cette règle elle est absurde. À moins
totalement.
Que t'aies l'adresse IP du gars, que genre PUBG aille voir Twitch, ils disent, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse IP de tous les viewers à ce moment-là?
Exactement.
Et que derrière, ils vérifient l'adresse IP du gars sur le jeu. C'est la seule méthode viable pour voir si le gars a bien strip snipé.
Oui, clairement.
Donc, dans le doute, moi je suis désolé, cette règle est totalement débile. Moi je suis désolé, tu streams un jeu comme celui-là qui est un peu une partie de cache-cache, on va dire. Tu prends ce risque-là. Et puis c'est tout, point. Voilà. Surtout qu'en plus, je rappelle quand même que sur Twitch, il y a un délai. Donc, quoi qu'il arrive, même si le gars sait où tu es, PUBG, c'est un jeu où le sound design est très important. Donc, si par exemple, t'es planqué dans un bâtiment et que le gars rentre dans le bâtiment en question, tu l'entends rentrer dans le bâtiment en question. Donc, tu sais qu'il arrive pour te tuer. Si tu fais une sortie, tu balances une smoke grenade et tu sors. Enfin, c'est un jeu, il faut faire tout le temps gaffe, en fait, de toute façon. Après, je suis d'accord que c'est dommage pour ces gens-là que le fait qu'ils jouent en streamant, les pénalise par rapport à d'autres. Mais en même temps, je suis désolé, t'as fait le choix de streamer, c'est ton problème. Voilà, c'est ton problème. Est-ce que dans les autres jeux, on fait ça? Non. Pourquoi dans PUBG si, je sais pourquoi, parce que PUBG chouchoute les youtubeurs et les streamers. Ça. Donc voilà,
c'est
pourquoi.
C'est ce qui a fait son succès, donc obligatoirement. Enfin, c'est ce qui fait toujours le gros du marketing pour le jeu, quoi. C'est grâce au stream et à Twitch qu'il est arrivé à cette hauteur-là, mais là, du coup, ça devient pénalisant pour les autres si, dès que tu snipes un mec, tu sais pas s'il est en train de streamer ou pas, et du coup, tu peux te prendre un ban pour rien, quoi. Ça devient un peu ridicule.
Et en plus, je voudrais rajouter un coup de gueule par-dessus ça. Récemment, on a eu des articles angéliques sur PUBG en mode, vous avez vu, ils hésitent pas à bannir ce streamer parce qu'il a fait du team kill sur ses coéquipiers. Regardez comme PUBG est exemplaire vis-à-vis des gens qui font du team kill. En vrai, dans PUBG, si t'es pas youtubeur ou streamer et que t'as pas une vidéo pour prouver que quelqu'un a fait du team kill, c'est impossible de faire ban un mec. Donc qu'on arrête de jeter des lauriers à une boîte qui ne fait pas correctement son boulot pour virer les gens qui font du team kill, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Alors que c'est simple, hein. Techniquement, je veux dire, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans la partie. Ah, à tel moment, il y a tous ces équipiers qui sont morts. Et tous ces équipiers, on l'en repart pour team kill. Il serait peut-être judicieux de le virer pour team kill, n'est-ce pas? Enfin, voilà. Bref.
Clairement.
Tout ça pour dire que PUBG est loin d'être exemplaire et que récemment, j'ai vu plein d'articles, notamment sur PC Gamer. Alors, je balance cela parce que c'est le site que je lis, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Oh là là, regardez PUBG, c'est formidable et tout. Non, c'est pas formidable. Voilà.
Clairement.
Bon. Quelque chose à ajouter, Pixel?
Non.
Voilà, tu n'es pas un
non,
streamer.
Non, c'est le genre de jeu auquel j'ai pas envie de jouer, quoi.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de solo et c'est pas ma tasse de thé, en fait.
Bah, surtout que PUBG, c'est typiquement le jeu, tu joues une demi-heure et paf, tu le fais tuer par une balle, tu sais pas d'où elle vient, donc, voilà, faut apprécier le délire, quoi. Moi, je sais que j'apprécie ce jeu parce que j'étais un gros joueur de DayZ à une époque et que j'ai retrouvé là-dedans une partie, je dis bien une partie de ce qui faisait le charme de DayZ, parce que clairement, il y avait des gens qui jouaient à DayZ en mode, vas-y, je commence une partie, je m'équipe et je vais aller tuer des gens, quoi, en gros. Enfin, bref. On va maintenant parler d'un autre jeu en ligne, mon cher Dwayne. Et ce jeu, c'est For Honor, qui va avoir quelques petits changements, n'est-ce pas?
Et oui, et le changement principal, donc c'est-à-dire que là Ubisoft a annoncé sur son blog, donc voilà, qu'il allait avoir des transformations majeures, donc on va reprendre un petit peu toutes les critiques et il y a pas mal de mises à jour qui vont être faites, dont les serveurs dédiés enfin, parce qu'avant on était sur du peer-to-peer quoi, donc c'est-à-dire qu'on a un jeu qui avait qui a de gros problèmes au niveau de la connexion et ces serveurs dédiés. Déjà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous donne un peu plus d'espoir ?
Bah après, moi, fondamentalement, que ce soit des serveurs dédiés ou autre chose, je m'en fous. Ce que je constate, c'est que ça ne marche pas, en fait. Parce que je rappelle quand même qu'il y avait déjà eu un article sur le sujet, enfin une interview d'Eurogamer, où à l'époque, on nous expliquait que les serveurs dédiés n'allaient pas régler les problèmes. Donc, moi, je comprends pas. À un moment donné, on nous dit, oui, le peer-to-peer, c'est le futur, et vous inquiétez pas, c'est pas ça le problème. Et puis là, maintenant, on nous dit, ah, mais vous inquiétez pas, on va mettre des serveurs dédiés. Ben, je croyais que ça allait pas régler les problèmes. Faut accorder un peu vos violons, là. Après, si ça règle les problèmes de For Honor, notamment pour jouer en équipe, parce que c'est ça le gros souci, pour jouer avec ses potes, c'est toute une histoire, sur For Honor. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais vu, sur des streams et ce genre de choses. Tant mieux. Le problème, c'est que c'est peut-être un peu tard. Parce que c'est pas un changement qui va y avoir tout de suite, hein, parce que pour passer de peer-to-peer à serveur dédié, c'est pas un changement qui va se faire comme ça en claquant des doigts, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc, le changement, il va arriver dans longtemps, et est-ce que d'ici à ce que ce changement arrive, le jeu sera pas déjà mort, en fait? Moi, c'est mon gros point d'interrogation. J'espère pas, parce que moi, je trouve que c'est un jeu qui a un concept intéressant. C'est un des rares jeux qui propose un système de combat hyper pointu en multijoueur à l'épée, quoi. Mais s'il y a plus de joueurs au moment où ils règlent le problème, on sera pas plus avancé, quoi. Mais en tout cas, c'est bien triste qu'il n'ait pas réagi plus tôt, parce que depuis le début, on est là, on dit ouais, non, les serveurs dédiés, c'est pas la solution. Vous inquiétez pas, on va régler le problème. Bah résultat, maintenant, ils font des serveurs dédiés. Ça aurait peut-être pas été plus con de le faire depuis le départ, en fait. Voilà.
Clairement. En plus, il a pas mal démarré. Il y a eu quand même de bonnes ventes. Et s'il n'y avait pas eu ces problèmes de serveur, enfin ces problèmes en général, bah peut-être que ça aurait pu fonctionner sur le long terme. Moi, de mon côté, j'y joue de temps en temps, et c'est vraiment du gâchis, parce que le système de combat, moi, je le trouve génial. Ça a l'air simple au départ, alors qu'au final, on est vraiment dans un jeu avec son adversaire. Et en fait, c'est un peu comme si tu jouais à Dark Souls en multi, sauf que le système est hyper bien fait. C'est simple à appréhender et compliqué à maîtriser, comme beaucoup de bons jeux multi. Et franchement, ça serait vraiment dommage qu'il meure avant de pouvoir atteindre son plein potentiel, quoi. Et là, on a l'air de se tourner vers un avenir un peu comme des jeux multi-dubi. Enfin,
parce que concrètement, là, on est d'accord, il y a plus de joueurs nouveaux qui arrivent sur le jeu, ou très peu. Enfin, voilà. Et donc, c'est le public qui est déjà là qui fait vivre la chose. Donc, si le public ne joue plus, c'est mort, quoi. Donc, et surtout que entre temps, il y a Absolver qui va débarquer. Bon, là, c'est du combat en mode kung-fu plus à main nue, même s'il y a des armes dans Absolver, mais bon, on va dire que c'est plus secondaire, le combat avec les armes dans Absolver. Donc, du coup, il y a un concurrent qui va arriver. Et pendant ce temps-là, à Veracruz, ben, il se passe pas grand-chose. Donc, bon, je suis pas très optimiste, on va dire.
Clairement.
Voilà, on va passer à la suite, et Pixel, on va parler maintenant de Take-Two.
Pourquoi Take-Two? Parce que on reparle en fait en ce moment de Red Dead Redemption 2, ce qui va avoir le même succès que GTA V, parce que GTA V, il a quand même été vendu à 80 millions d'exemplaires, et à mon avis, ça va pas s'arrêter là. Il va encore se vendre à quelques millions d'exemplaires d'ici la sortie de Red Dead Redemption 2. Et on se demandait donc, alors, est-ce que ça va atteindre les 80 millions? Est-ce que ça va faire plus? Est-ce que ça va faire moins?
En gros, quelles sont les ambitions de Rockstar sur le jeu?
Voilà. Et donc, ben, on a la réponse, en fait. Le PDG de Take-Two, alias Strauss Zelnick, je le prononce bien, il a dit qu'en fait, que le... Ça paraît peu probable, en fait, que le Red Dead Redemption 2 atteint le succès de GTA V. Chez Rockstar, ils y croient à son succès, mais que, voilà.
Bon, après, il a tout un discours marketing bullshit, en mode, oui, GTA V, c'est le jeu de la génération... Regardez comme on est formidable. Non, GTA 5, bon, même s'il a des qualités, hein, je ne nie pas, mais sa première qualité surtout, c'est d'être un des premiers gros jeux à service de cette génération. Et maintenant, c'est un maelstrom qui aspire tout, quoi. Le problème, c'est que des jeux à service comme GTA 5, tu peux pas en avoir 36 à un moment donné. L'idée du jeu à service, c'est quoi? C'est que t'as une base de joueurs de plus en plus importante qui attire d'autres joueurs, et ces joueurs vont rester sur ton jeu parce que ils ont investi tellement d'heures dessus, et Pixel peut témoigner, n'est-ce pas?
Ah oui, bah, sur...
que ils peuvent pas quitter ce jeu-là, en fait. Ouais. Quand t'as un jeu qui fonctionne avec ce modèle économique-là, tu peux pas dire à côté, alors ok, on va sortir un jeu qui va avoir le même succès, parce que de toute façon, ton public, il est déjà sur un jeu comme ça qui s'appelle GTA V. Et c'est tout le problème des jeux à service, et d'ailleurs, juste un petit coup de pub au passage, je vous invite, si vous êtes premium chez Gamekult, à aller voir leur article qu'ils ont fait très récemment sur l'échec des AAA, où ils parlent notamment de cette problématique du jeu à service. Au bout d'un moment donné, si tous les gros éditeurs commencent à faire des jeux comme ça, qu'est-ce qui se passe pour les AAA traditionnels comme Red Dead Redemption? Parce que là, pour le coup, ce sont des jeux qui ont coûté très cher et qui doivent eux aussi trouver leur public, mais le public, il est déjà sur des jeux qui aspirent à un temps absolument colossal.
Enfin, c'était à prévoir. Red Dead Redemption pourra pas arriver au niveau de GTA. Après, il y a ce problème du jeu à service, comme tu l'as dit. Je veux dire, moi, je suis pas mal l'Evo, surtout à cause de Smash Bros. Et il y a rien qu'à regarder. Ils sont toujours sur Smash Bros. Melee, alors qu'on a de nouveaux titres en plus. Et c'est un peu le même principe, dans le sens où quand tu t'es investi, que t'as tout dans un jeu que tu aimes et qui continue à être mis à jour perpétuellement, bah il y a peu de place pour le reste. Et Red Dead Redemption 2, il sera sûrement très bon au niveau de l'histoire, continuer un peu ce qu'avait fait le premier. Mais malheureusement, enfin, au niveau du multi, je vois pas trop comment il pourrait arriver au même niveau que GTA. GTA, c'est juste le jeu que tout le monde connaît, c'est l'une des licences les plus fortes de l'industrie, et il y a
60 millions de GTA 5, c'est absolument prodigieux, quoi.
Bah, le truc, c'est que déjà, c'est une marque qui était déjà reconnue, enfin, comme étant l'une des plus grosses avant le 5, et en plus, le 5 était très bon au niveau du scénar de la campagne principale, et ensuite, le online est bon, et il continue à le mettre à jour continuellement. Donc, c'est, en gros, toutes les étoiles était aligné, c'est très compliqué d'avoir un succès, ne serait-ce qu'il pourrait s'approcher même de celui-là. C'est...
Pixel, ton avis de joueur acharné de GTA V? Alors parce que lui, pour le coup, je veux dire, il est vraiment acharné. Hein. Il s'est fait supprimer son compte, il en a recommencé un.
J'ai ma maison, mes bagnoles, ma vie.
Mon trafic de drogue. Oh. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis sur GTA? Vous avez déjà fait les questions, les réponses. Ça fait quelques semaines que j'ai pas joué parce que j'ai d'autres jeux à finir, quoi. Mais
Si tu veux, je peux te poser une question simple. C'est comment tu trouves le temps pour jouer à autre chose quand tu joues à un jeu comme ça?
Eh ben, je laisse de côté tout simplement. Je joue à d'autres jeux. Je suis très pragmatique là-dessus, il n'y a pas de problème, je peux le lâcher, GTA.
Mais est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, par exemple, il prend pas du temps sur d'autres jeux, potentiellement? Parce que, disons que tu n'as plus du tout
GTA 5, tu vois. Ah, bien sûr que si.
Voilà.
Quand je joue à GTA, je me dis, merde, j'ai d'autres jeux sur le feu, mais je me dis, en même temps, il faut que je remonte mon perso, parce que ça me fait chier, tant que je suis pas au niveau 120, il faut que je monte, quoi. Enfin, le niveau maximal, il y en a pas vraiment dans le jeu, quoi. Mais dans GTA V Online, quand t'atteins le niveau 120, après, ça veut plus rien dire.
Ouais, quand tu tombes dans la routine, 120, en fait.
Ouais, tu tombes dans la routine parce que la dernière arme, qui est la sulfateuse, tu la débloques quand t'es niveau 120. Et après, tu débloques absolument plus rien du tout. Tu peux être niveau 512, ça n'a aucun intérêt.
C'est juste un chiffre qui monte. Enfin,
c'est juste un chiffre, voilà.
Voilà.
Ça, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, quoi, je me suis fait supprimer mon perso, j'étais niveau 200 plus que 200, quoi. Donc, ça m'a fait mal. J'ai pas tapé de crise, mais j'ai quand même été bien dégoûté. Et en plus, j'avais été banni pendant un mois, donc pendant un mois, j'y ai pas joué du tout.
C'était la période de désintoxication, Pixel.
Non, je ne suis pas intoxiqué par GTA Online, mais j'ai repris depuis quelques mois mon nouveau perso, quoi, qui est identique à l'ancien, d'ailleurs, parce que j'ai pas eu envie de créer un perso 100% neuf, quoi. Et là, je suis arrivé au niveau un peu plus de 100, quoi. Et je sais que quand j'arriverai niveau 120, j'arrêterai là et j'attendrai une bonne grosse mise à jour avant de le reprendre.
À quel moment on se dit j'arrête définitivement GTA V ?
Le jour où il y aura plus de mise à jour.
D'accord, donc toi c'est jusqu'au bout.
Tant qu'il y aura mises à jour, j'y jouerai.
C'est marrant parce que en fait quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'entendre parler un joueur de WoW, quoi. Finalement, les MMO c'était vraiment les précurseurs là-dessus. C'était exactement ça, quoi. Le joueur de WoW, je veux dire, il avait investi des heures et des heures de jeu là-dessus. Il avait ses potes qui étaient sur le jeu. Il s'était fait des amis sur le jeu. Et limite, quitter WoW, pour eux, c'était comme quitter la famille, tu vois. Enfin, c'est...
Mais c'est pas la même chose du tout pour moi sur GTA V.
Oui, hein. Non, mais après, toi, GTA V, t'as une expérience solo, tu vois. Mais imaginons si t'avais... intégrer une communauté, que vous jouiez tous les week-ends ensemble. Il y a tout qui est fait dans ce système-là pour que tu ne quittes pas ces jeux-là, en fait. Et moi, c'est ce qui m'inquiète avec ce modèle économique-là pour l'avenir, en tout cas, des AAA. Bon, après, moi, je joue à des petits jeux où il y a un autre problème, c'est qu'il y en a trop, mais pour les AAA, en tout cas, je pense qu'à un moment donné, si tout le monde essaie de faire comme ça, ça va être un gros souci, quoi.
De toute façon, l'industrie, à un moment donné, va se... remettre à jour, c'est-à-dire que tout le monde va essayer de faire ça, ils vont tous se ramasser, et puis ensuite...
Il y aura des morts.
Voilà. Ah oui, que forcément, et puis ensuite, ça va... Ils vont essayer de changer les choses, de se renouveler, mais ça, ce sera pas avant qu'il y ait des morts, et...
Non, mais parce que, encore une fois, on a un modèle pour ça, hein. C'est World of Warcraft. Tous les mémos qui ont essayé d'imiter World of Warcraft, regardez combien de boîtes ont survécu. Et moi, c'est aussi ça qui m'inquiète. Je pense que les éditeurs sont totalement inconscients de s'embarquer dans ce modèle-là, parce que même si on dit oui, c'est l'avenir, c'est comme ça, ça va marcher, machin, si tout le monde fait comme ça, il y aura forcément des morts en masse, quoi. Enfin, je vois pas comment cette industrie, en tout cas pour ce qui est des AAA, peut s'en sortir si tout le monde se met à faire ça.
Ouais, mais tout le monde ne pourra pas, comment dire, faire comme Rockstar et sortir
oui,
des mises à jour gratuites, des grosses mages gratuites.
C'est bien ça le problème.
2013. Tout le monde ne pourra pas le faire.
Voilà. Et le problème, c'est que quand tu seras un éditeur, mais que tu n'auras pas les reins d'un Electronic Arts, d'un Activision, d'un Take-Two, tu feras comment ? Allez, on va maintenant parler, et on va terminer sur un jeu qui a défrayé la chronique cette
semaine. Et qui
semaine.
Est sponsorisé par Energy 12.
Voilà, et qui est sponsorisé par putaclic.com.
.fr.
Voilà, .fr, attention. Attention. Et ce jeu, il s'appelle House Party. Alors, vous voyez, rien qu'en prononçant ce nom, je me sens sale déjà. Et je vais vous mettre une vidéo et vous allez voir, vous allez vous sentir encore plus sale quand vous allez voir cette vidéo. Parce que ce jeu, franchement, c'est vraiment tout ce que j'exècre dans le... Comment dire ça ?
Ça cristallise en fait tout ce qui est putassier dans l'industrie vidéoludique
voilà.
Contemporaine.
Mais même au-delà de l'industrie vidéoludique, dans le divertissement de masse, quoi. Parce que quand je vois ça, j'ai l'impression de regarder de la télé-réalité.
Ou YouTube.
Et grosso modo, moi je vais résumer ça en disant que c'est une simulation de soirée qui tourne mal.
Parce pour que, certains, ça sera une soirée qui tourne bien. Mais je
oui,
dis ça,
oui,
je
voilà.
Dis rien.
Ouais, voilà ça, on va dire que c'est une question de point de vue. C'est un jeu, on va dire, où tu as un degré d'objectisation de la femme qui est assez avancé. Enfin, les nanas, c'est toutes des bimbos qui ont été sur la table d'opération pour se faire gonfler les seins. C'est ultra vulgaire. Les mecs, enfin, c'est la représentation du mec bourré en soirée étudiante qui va faire
le
n'importe
sportif.
Quoi. Enfin, bref, il a tous les ingrédients pour marcher, ce jeu. Hein. Concrètement, je veux dire... Enfin, bref. C'est un jeu où il y a du cul, au passage, parce que une soirée étudiante sans machin qui va se taper machine, voilà, c'est pas une vraie soirée étudiante. Bon, forcément, c'est un jeu qui marche, parce qu'il y a du cul, il y a des gros cons, donc ça marche, tu vois. Fondamentalement, ça a l'air de... Enfin, c'est même pas ça a l'air, c'est un bon gros jeu de merde, j'y ai pas joué, mais j'assume quand même, ça représente tout ce que j'exècre. Voilà. Malgré tout, Il y a une chose qui s'est passée cette semaine, c'est que le jeu qui était sorti sur Steam, donc, a été retiré de Steam. Et donc, je voulais vous poser cette question, messieurs, et on va commencer par Pixel. Est-ce que, pour vous, comme ça, parce que des gens ont gueulé, parce que concrètement, c'est ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont, comme moi, pensent que c'est d'extrême mauvais goût, mais qui, pour le coup, l'ont fait savoir très vocalement en demandant que le jeu soit retiré de Steam. Est-ce que le mauvais goût justifie que l'on retire un jeu de la vente?
Bah écoute, je sais pas, je vais un peu te redire ce que je t'avais dit en off sur ce jeu, quoi. C'est que c'est un jeu de mauvais goût, on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'aucun de nous trois n'y jouera jamais de toute sa vie. Rien qu'en regardant la vidéo, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, on se croirait sur Energy 12. Ça cristallise en fait tout ce qui est putassé dans le jeu vidéo, tout ce qui est putassé à la télé-réalité, tout ce qui est putassé sur YouTube. Et c'est un jeu de merde qui a été fait par des gens qui ont pas de goût, qui a été fait volontairement pour être un jeu putaclic. D'ailleurs, dans la vidéo, si on voit des youtubeurs putaclic, c'est pas un hasard, c'est pas innocent. C'est un jeu qui fait le bad buzz, good buzz, hein, tu sais...
Oh non, parce que là, concrètement, on est d'accord que ça lui rend service, hein, que... Même nous, là, on lui fait de la publicité, hein, quand on fait ça. Hein,
ouais. Que tu parles de moi en bien ou en mal, voilà. Du moment que tu parles de moi, c'est ce qui compte, et là, c'est ce qui compte, et on joue le jeu, en étant tout à fait conscient qu'on fait de la pub pour un jeu de merde. Il est retiré, donc il va ressortir dans une version moins dégueulasse, mais tout aussi stupide. Maintenant qu'il est retiré, tout le monde va vouloir y jouer, et dans, je sais pas, un mois ou deux mois, tout le monde l'aura oublié. S'il ressort d'ici là, peut-être qu'il va ressortir dans 6 mois, j'en sais rien. Mais à mon avis, non, il va ressortir très très vite, parce que c'est un jeu...
Il faut surfer sur la vague.
Il faut surfer sur la vague, le buzz il dure pas longtemps, c'est viral, et donc quand c'est viral, il faut que ce soit extrêmement rapide et que ça bouffe à tous les râteliers, et c'est... Voilà, et comme j'ai dit en off tout à l'heure, mais à quoi bon parler de ce jeu-là? Ça mérite même pas, mais bon, ça mérite qu'on en parle juste pour dire que c'est de la merde.
Alors, Dwayne, tu as quelque chose à ajouter?
En fait, à part le fait de dire effectivement, ça on est tous d'accord que c'est bien naze, c'est de la merde, et que ça promeut, on va dire, des dérives du genre « je fais la fille boire, on y va », qui sont assez particulières, surtout dans le jeu vidéo où on est sur un média interactif, en plus du mauvais goût de la télé-réalité actuelle. Et pour répondre à la question, c'est assez compliqué parce que, dans un sens, c'est pas mal qu'il soit retiré, mais je dirais que non, qu'il faudrait le laisser. C'est le jeu, il promeut ce qu'il veut. Je veux dire, on laisse des jeux où on tue des gens toute la journée. Après, c'est à chaque
parent... On tue des Arabes, concrètement.
Oui, des Arabes, des nazis ou des Russes, bien sûr.
Non, mais je dis volontairement des Arabes. Pourquoi? Parce que on a une tendance à sortir des jeux qui sont extrêmement discutables sur le plan idéologique, où on tue des gens, notamment des Arabes, parce que il y a une imagerie, si tu veux, du terroriste, tout ça, qui est assez vomitive aussi, entre autres.
Voilà, et ça, c'est acceptable. Enfin, acceptable, voilà, je veux dire, non, ça, c'est accepté
que,
à un niveau sociétal.
Dans notre société, c'est perçu voilà. Plus acceptable d'aller tuer des Arabes que de voir des gros cons qui couchent ensemble, tu vois. Enfin, c'est... voilà.
En gros, le truc, c'est que pour moi, il n'y a pas de justification claire dans le retrait de ce jeu, malgré le fait qu'il est très très mauvais, que ce soit sur le point de vue technique, idéologique ou sur tout point de vue, quoi. Donc moi, de mon côté, je dirais qu'il faut le laisser, que les gens sont assez débiles ou intelligents pour y jouer ou ne pas y jouer. Et pour moi, c'est des choses qui ne font qu'accentuer la promo et qui font que les gens vont l'acheter quand il va ressortir en version édulcorée, quoi.
Alors, pour préciser pourquoi je voulais parler de ce jeu cette semaine, parce que pour moi il soulève un point intéressant qui sont les guidelines de Steam. Et qui soulève un problème qu'a Valve notamment, à savoir que Valve n'a aucune guidelines claire et que cette affaire montre qu'ils peuvent retirer un jeu comme ça au jugé en fait. C'est-à-dire en gros, on n'a rien dans notre règlement qui interdit que ce jeu sorte, et d'ailleurs la preuve, il est sorti à la base, hein, je veux dire quand même, mais comme il y a suffisamment de gens qui gueulent pour que ce jeu soit retiré, va le retirer de son store. Et pour moi, ça, c'est extrêmement problématique comme attitude. Parce que là, ok, on parle d'un jeu de merde, tout ça, très bien. Mais imaginons, ça concerne un jeu qui tient un certain propos, par exemple. Et que ce propos ne plaît pas à une certaine frange de la population. Est-ce que si par exemple le patron de Valve est d'accord pour dire que oh oui moi aussi je suis pas d'accord du coup on va le retirer de ma boutique, est-ce que c'est justifiable? Pour moi c'est fondamentalement ça le problème, parce que qu'il y ait une polémique sur ce jeu de merde, fondamentalement on s'en fout en fait. Pour moi la grosse problématique de ce qui s'est passé là, c'est que Valve a retiré un jeu parce que des gens ont dit oui il faut le retirer, alors que fondamentalement, moi je suis désolé, j'ai rien vu dans les guidelines de Steam qui interdisent que le jeu sorte. Il serait temps que Valve définisse clairement ce qui peut sortir sur son store ou pas, et qu'à un moment donné, ils disent aussi clairement aux développeurs « Ok, on a regardé votre jeu, alors je sais vous voulez pas regarder les jeux, mais à un moment, il va falloir vous sortir les doigts pour les regarder, les jeux, et nous, on ne veut pas de ce jeu sur nos plateformes, parce qu'ils ne respectent pas ça, pas ça, pas ça. » Vous voyez, c'est marqué dans nos guidelines. Et du moment que Valve est transparent là-dessus, parce que c'est ça le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout transparents, là, en fait, c'est un système où, ouais, non, je suis de mauvaise humeur, je me suis levé du pied gauche ce matin, j'ai décidé que ce jeu, il est pas sortir chez moi, parce que j'ai décidé, voilà. Moi, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. C'est extrêmement problématique. Et encore une fois, c'était pareil, par exemple, avec Arthred. Je me rappelle Arthred, donc le jeu qui avait eu une polémique parce que on en avait parlé d'ailleurs à l'époque, la preuve qu'on aime bien parler des jeux putaclic sur Game Info. mais encore une fois, c'était un jeu qui avait fait du bad buzz sur le fait qu'on tuait des gens en masse, etc. En plus, ça, c'était à une époque, je crois, où il y avait eu des tueries et tout. Enfin bref, c'était aussi d'extrême mauvais goût, mais en même temps, je suis désolé, le jeu, il n'y a rien qui dans les galeries de Steam qui interdise qui sorte. Donc, si le jeu respecte la loi, je suis désolé, absolument rien ne justifie que Valve fasse la police comme ça et impose au studio de modifier le contenu de ce jeu, que ce soit pour un jeu putaclic comme celui-là, ou que ce soit pour un jeu, par exemple, disons, qui milite pour certains droits. Alors, on est d'accord que dans le jeu vidéo actuellement, c'est pas principalement le genre de choses qu'on a, hein. On est plutôt dans une industrie du divertissement. Mais imaginons qu'un jeu, par exemple, comme Spec Ops The Line, se fasse interdire parce que il a un propos sur la guerre, etc. Et qu'il y a des images extrêmement violentes qui peuvent heurter la sensibilité des jeunes. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. Bon, c'est pas arrivé pour Spec Ops The Line, mais ça pourrait arriver. Parce que avec un système comme ça qui est aussi flou, c'est le genre de choses qui peut malencontreusement se passer, quoi. Donc moi, ce que je réclame, pour faire simple, au-delà de cette histoire, c'est que Valve éclaircisse qu'est-ce qu'on peut sortir chez eux. Bon, je sais qu'ils feront pas, hein, soyons clairs, je ne suis pas naïf. Mais pour finir là-dessus, je pense que les gens qui gueulent pour qu'on retire des jeux comme celui-là desservent leur cause, parce que fondamentalement, en faisant ça, ils participent à la promotion du jeu. Voilà, c'est tout. Donc, je veux dire, s'il y a des choses problématiques sur le plan idéologique, on est d'accord, vous pouvez discuter, disséquer le jeu pour montrer que c'est de la merde, d'accord. Mais le faire retirer comme ça, ça ne fait faire que du buzz, déjà, et ça crée un précédent qui, pour moi, est extrêmement problématique. Bref, je m'arrête là. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs.
Ben non, c'est ça quoi, c'est-à-dire que il y a rien de clair et que par exemple s'il y a des gens qui trouvent que Far Cry 5 est trop anti-Trump, qui viennent en masse, ça veut dire que Valve peut le retirer, enfin c'est ça peut aller assez loin et sans guideline clair, ça reste assez compliqué, voilà, voilà.
Et voilà, donc si on veut qu'un jour on ait un média mature où il y a un propos, il faut qu'on ait une position claire des gens qui distribuent les jeux pour dire « Nous, on n'intervient pas dans le contenu des jeux tant que ils ne transgressent pas un certain nombre de règles. » Et que ces règles soient clairement définies pour qu'on sache quand un jeu est interdit, pourquoi il a été interdit, c'est tout. C'est pas plus sorcier que ça. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine et pour cette saison.
Ouais. Si tu veux.
Je bah après si vous voulez qu'on continue à parler de ce jeu, il y a pas de souci hein, ou vous avez quelque chose à ajouter, je ne sais pas.
Ah bah tout ce que je veux dire c'est que ça servait à rien de l'interdire parce que enfin de le retirer parce que de toute façon le jeu va mourir de lui-même.
Voilà. Très chers auditeurs, je voulais dans tous les cas vous remercier pour votre participation tout au long de cette saison. Ça m'a fait extrêmement plaisir, ça a été l'une des saisons où on a eu le plus de réactions, où on a eu le plus de présence de commentateurs à chacun de nos podcasts. Et pour avoir passé plusieurs années sans avoir un seul commentaire sur ces podcasts, je peux vous assurer que ça fait une grosse, grosse différence. Je tenais aussi au passage à m'excuser parce que je sais qu'il est arrivé que des gens commentent sur Twitter. Mais bon, le truc, c'est que j'aime pas Twitter déjà à la base. Et voilà, bon, j'ai pas le temps, tout simplement. Voilà, je peux pas gérer ce genre de choses. Mais dans tous les cas, sachez que vous avez été lus aussi. Et merci, en tout cas, merci d'être fidèles. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette saison. On se donne rendez-vous à la reprise après la Gamescom pour de nouvelles aventures. Ciao à tous.
Bravo, à très bientôt, salut.
Et donnez votre argent à Ben pour qu'il répare sa voiture.
Oh merde.